Santé, votre magazine santé. Indispensable à notre équilibre digestif, le microbiote joue également un rôle essentiel sur notre cerveau. Mais comment bien le soigner ? Traitements et médicaments existent désormais. Le Figaro Santé consacre son nouveau dossier au microbiote. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. En général, la machine à café, c'est la bonne excuse pour faire des pauses au boulot. Mais là, avec votre machine Nescafé,
oui.
Eh ben, j'ai aussi une excuse pour faire des pauses quand je télétravaille.
Et ça fait du bon café. Du 23 avril au 4 mai, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'Achat, la machine Nescafé Dolce Gusto Minimi et ses 60 capsules offertes avec 20 euros de réduction est à 39,90 €. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Garantie 2 ans, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal, c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Grand frais.
Ouais, Francky, bon, je vais pas pouvoir venir te chercher à la gare, hein. Là, je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont une burrata ultra crémeuse, parfait pour ma salade de tomates. Donc, attends-moi un peu, t'inquiète, j'en ai pour 4 heures max.
Chez Grand Frais, retrouvez chaque jour des petits prix. Et jusqu'à samedi, la burrata dépouille de 150 grammes est à seulement 2,49 €. Régalez-vous, faites vos courses.
Grand frais !
Le meilleur marché.
Soit 16,60 € le kilo, pourcentage de matière grasse précisé sur le lieu de vente, au lait de vache, élaboré en Italie. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Vous écoutez Europe 1, il est un tout petit peu plus de 13h.
Europe 1 13h.
Céline Géraud.
Bonjour à tous, bienvenue à bord. Europe 1 13h, c'est votre rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Dans ce journal, Sciences Po Paris bloqué par des dizaines d'étudiants pro-palestiniens. Un blocus qui s'inscrit dans le sillage des actions menées dans les universités américaines. Tous les détails dans quelques instants. En plein marasme budgétaire et à moins de 50 jours des élections européennes, la France sous la menace d'une dégradation des agences de notation. Verdict ce soir à 22h. Quelles conséquences pour le gouvernement ? L'actualité, c'est aussi la production mondiale de vin à son plus bas niveau depuis 1961. Et cette dégringolade profite aux viticulteurs français. Europe 1 vous dit pourquoi. Les bons résultats du traitement préventif contre la bronchiolite pour les nourrissons, plus de 4000 hospitalisations évitées. Et puis la liste des 100 premiers édifices religieux qui vont bénéficier de la souscription nationale pour les sites en péril a été dévoilée. Rendez-vous à la fin de ce journal. Bonjour Géraldine Hamon, la Bonjour. Tendance météo pour l'après-midi.
Un temps très instable. Pluie et orage, c'est ce qui vous attend ce vendredi après-midi. Les températures augmentent légèrement, de 10 à 14 degrés dans le nord. Elles atteignent les 18 degrés au sud de la Garonne. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal.
Europe 1.
Et on ouvre cette Europe 1 13h avec cette mobilisation étudiante pro-Palestine qui se poursuit à Sciences Po Paris au lendemain d'une évacuation par la police. Plusieurs dizaines d'étudiants ont décidé d'occuper à nouveau le campus de la prestigieuse université. Guillaume Dominguez, vous êtes devant Sciences Po rue Saint-Guillaume. Pour Europe 1, la mobilisation ne faiblit pas, hein ?
Et oui, ici c'est une centaine d'étudiants keffiés sur la tête, visages masqués, qui ont accroché sur la façade du campus des pancartes, des drapeaux palestiniens et le visage des policiers venus déloger les manifestants lors des précédentes mobilisations. L'entrée du campus est barricadée par des poubelles, des vélos, des barrières, des slogans pro-palestiniens, anti-sionistes et anti-police sont scandés sans discontinuer depuis plusieurs heures. Et un peu plus tôt dans la matinée, les manifestants ont improvisé une sorte de conférence de presse pour annoncer leurs revendications.
La condamnation claire des agissements d'Israël par Sciences Po, l'investigation de toutes les institutions ou entités suspectées de participer à perpétrer l'oppression systémique du peuple palestinien, menant à la fin des collaborations en cas de complicité avérée.
Et les manifestants demandent également et rappellent leur soutien au peuple gazaoui, mais sans un mot pour les Israéliens retenus en otage par le Hamas. Sur le trottoir d'en face, des dizaines d'étudiants assistent impuissants au spectacle, empêchés d'accéder au campus pour pouvoir y réviser à une semaine de la tenue des examens. Parmi eux, Edouard, en première année de bachelor.
Globalement, les étudiants de Sciences Po subissent ces blocages. On arrive sur une période de partiel où on souhaite travailler tranquillement dans les bibliothèques, dans les espaces de travail. Et aujourd'hui, ces étudiants nous empêchent de travailler tranquillement et d'être serein avant ces partiels.
Voilà, un blocus débuté mercredi soir à Sciences Po Paris et qui va sans doute durer encore toute la journée et peut-être une partie de la soirée.
Guillaume Dominguez en direct de Sciences Po pour Europe 1, une mobilisation qui s'inscrit dans le sillage des blocus organisés dans les universités américaines, notamment à Columbia, à New York, qui a des cursus en commun avec Sciences Po à Paris. La police est intervenue dans de nombreux états. Au total, ce sont près de 400 manifestants qui ont été arrêtés et une soixantaine d'universités américaines concernées, dont celle de UCLA à Los Angeles, où vous vous êtes rendu pour Europe 1 à Viva Fried.
Oui, environ 200 manifestants ont érigé des tentes sur une pelouse au centre de l'université. Tout autour, il y a des palettes en bois sur lesquelles sont accrochées des affiches proclamant « Free Palestine » ou bien encore « Abat l'impérialisme américain ». Des étudiants, tous masqués, revêtus de keffiyeh, se relaient au mégaphone pour hurler des slogans. Les journalistes ont interdiction de passer la barrière et de parler à n'importe qui. J'ai dû attendre qu'une porte-parole officielle du mouvement veuille bien me répondre par un discours bien rodé.
Nous sommes ici car on ne peut pas faire comme d'habitude alors qu'un génocide se déroule à Gaza depuis 200 jours.
Et pas question, bien sûr, de mentionner les otages israéliens retenus par le Hamas.
Si on pense à autre chose, ça nous détourne de notre principal objectif.
Une vingtaine d'étudiants arborant des drapeaux israéliens circulent sans encombre. Pourtant, une étudiante juive m'explique qu'au quotidien, les choses sont compliquées.
J'ai eu une altercation avec une femme. Elle a regardé mon étoile de David et elle m'a poussée violemment.
Mais la direction de UCLA n'a pas l'intention pour l'instant de prendre des mesures contre le campement. La présence policière sur place est d'ailleurs quasi inexistante.
Aviva Fried, la correspondante Europe 1 aux États-Unis. 13h06 sur Europe 1, 10 jours après le guet-apens meurtrier de Grande-Synthe qui a coûté la vie au jeune Philippe Kopman, une nouvelle affaire pose la question du rôle et du contrôle du site de rencontre Coco. Lundi soir encore, un homme est tombé dans un guet-apens tendu sur ce réseau social qui est un repère de prédateurs sexuels et qui intéresse de plus en plus les enquêteurs, William Molinier.
Il est régulièrement pointé du doigt par les familles de victimes et les associations. Coco, ce site internet refuge des délinquants en quête de discrétion, officie depuis une décennie, sans jamais être inquiété. En 2022, la plateforme bulgare répartit ses bergers à Guernesey. L'île britannique se trouve en dehors de l'Union européenne, a priori hors d'atteinte des autorités françaises. Sauf que, depuis l'automne dernier, le règlement européen dit DSA permet de poursuivre les plateformes dans le monde entier dès lors que des citoyens européens sont ciblés, l'occasion pour Véronique Rondeau-Abouli, avocate spécialiste du numérique, de tester cette nouvelle disposition.
Les utilisateurs eux-mêmes peuvent considérer que l'utilisation du réseau social porte atteinte en tant que telle à leur vie privée. Ça ne serait pas forcément insensé de saisir les juridictions au titre de la protection qui leur est donnée par le DSA.
Les utilisateurs, mais aussi l'État, via l'ARCOM, pourraient, selon l'avocate, contraindre la plateforme au regard du droit européen pour la forcer à modérer davantage, voire à la fermer définitivement.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Depuis lundi, nous en parlons sur Europe 1. La commission spéciale de l'Assemblée nationale chargée d'examiner le projet de loi sur la fin de vie enchaîne les auditions avant son examen en séance publique le 27 mai. Un texte qui inquiète toujours une partie des soignants, mais aussi des parlementaires, qui craignent notamment de voir voler en éclats les conditions d'accès à cette aide à mourir, Mayalène Trémollet.
Le gouvernement le martèle depuis l'ouverture du débat. Toute personne souhaitant avoir accès à l'euthanasie doit réunir certaines conditions. Tout d'abord être majeur, capable d'un discernement plein et entier, mais aussi être atteint d'une maladie incurable, avoir un pronostic vital engagé à court ou moyen terme et subir des souffrances réfractaires, c'est-à-dire qui ne peuvent être soulagées. Des garde-fous garantis par la ministre de la Santé Catherine Vautrin. Elle était l'invitée de la grande interview d'Europe 1 ce matin.
Je défends l'équilibre de ce texte qui est extrêmement important. Parce que quand un patient pense rassembler l'ensemble des conditions qu'il demande de bénéficier de l'aide à mourir, la première chose qui va lui être proposée, ce sont des soins palliatifs.
Les conditions divisent pourtant déjà au sein de la majorité parlementaire. Certains sont vent debout contre ces restrictions. D'autres s'inquiètent au contraire d'une potentielle suppression de ces limites. Nous sommes très soucieux des verrous. On ne veut pas ouvrir la boîte de Pandore, regrette ainsi un élu Renaissance qui cite l'exemple de la Belgique où l'euthanasie est étendue aux mineurs depuis 2014.
Mayalène Trémollet, Lyonnais du service politique d'Europe 1. 13h09, cette question, Fitch et Moody vont-elles baisser la note de la France ? Ce soir, autour de 22h, ces deux agences de notation vont donner leur avis sur la santé financière du pays. La dette française, on le rappelle, dépasse les 3 000 milliards d'euros. Et il y a des raisons de ne pas être totalement optimiste. Alexandre Chauveau, la dégradation de la note pourrait-elle avoir des conséquences politiques pour le gouvernement ?
Oui, cela viendrait s'ajouter à une série de mauvaises nouvelles sur le plan budgétaire, des prévisions de déficit en deçà de la réalité et une croissance plus faible que prévu. Conséquence, des milliards d'euros d'économies à réaliser, et ce alors que l'absence de majorité absolue à l'Assemblée contraint le gouvernement à attendre l'automne prochain pour rectifier le tir. L'hypothèse d'un budget rectificatif a en effet été enterrée par Emmanuel Macron en personne, qui ne souhaitait pas s'exposer à une potentielle motion de censure des Républicains. La baisse de la note de la France par les agences de notation interviendrait également en pleine campagne européenne, avec un électorat macroniste composé en partie de retraités et de CSP+, attachés à la crédibilité économique de la France. Ce qui était jusqu'ici l'un des points forts d'Emmanuel Macron, à qui l'on attribue un certain dynamisme économique et la baisse du chômage, devient donc un nouvel angle d'attaque pour les oppositions.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, et dans ce contexte budgétaire tendu, le cap du million d'interventions pour impayés de factures d'énergie a été franchi l'an dernier en France. Plus du quart de ces interventions ont donné lieu à des coupures.
Europe 1, il est 13h10.
13h, 14h, Céline Géraud.
Et dans le journal, Céline, vous revenez sur cette dégringolade de la production mondiale de vin qui atteint un niveau historiquement bas.
Oui, c'est son plus bas niveau depuis 1961, avec 237 millions d'hectolitres produits en 2023. Un chiffre dévoilé ce matin par l'Organisation internationale du vin. Aurélien Fleureau, comment expliquer cette chute de la production ?
Eh bien, ce sont principalement des événements climatiques qui ont réduit les récoltes, sécheresse, vagues de chaleur, gel précoce. Résultat, moins 10% sur un an au niveau mondial. La France, impactée aussi, s'en sort malgré tout mieux que ses voisins avec une hausse de 4% de la production et retrouve la place de numéro 1 dans un contexte de baisse continue de la consommation, décrypte Samuel Mongermont, président de Vins et Sociétés.
On est repassé premier producteur parce qu'il y a eu aussi une petite récolte en Italie, une petite récolte en Espagne. Et les volumes sont toujours à rapprocher des productions des aléas climatiques des uns et des autres. Le drame, c'est pas de produire. La complexité, c'est de trouver des débouchés de commercialisation, ce qui est un autre problème aujourd'hui, parce qu'on le sait, on a aussi des productions qui se vendent plus ou moins bien.
Car c'est vraiment l'inquiétude principale de toute la filière qui doit innover. Il y a moins de consommateurs, même si certains vignobles s'en sortent très bien et que les vins blancs et rosés limitent la casse. Un chiffre démontre bien cette tendance. 5% des ménages français représentent la moitié de la consommation de vin du pays.
Les explications d'Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Dans cet Europe 1 13h, je vous parle maintenant d'une pathologie qui touche chaque année environ 30% des enfants de moins de 2 ans, la bronchiolite. Alors depuis septembre dernier, des centaines de milliers de nouveau-nés ont pu profiter d'un nouveau traitement préventif contre cette maladie. Il s'appelle le Beyfortus. Et Mathieu Prior, les premiers résultats dévoilés ce matin par la Haute Autorité de Santé sont très encourageants.
Oui, cet hiver, 215 000 doses ont été commandées et administrées principalement à des nourrissons. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats sont très positifs. Ce traitement a permis d'éviter près de 80% de cas graves de bronchiolite, c'est-à-dire des bébés hospitalisés en réanimation. Christelle Gras-Leguen est professeure de pédiatrie au CHU de Nantes.
C'est plus de 5 000 hospitalisations qui ont été évitées. L'autre point qu'il faut souligner, c'est que la France est un des seuls pays à avoir eu la possibilité de protéger autant d'enfants sans que le produit soit facturé aux familles. Ça a été une très très belle opportunité que de pouvoir limiter les dégâts de la bronchiolite cet hiver dans notre pays.
Désormais, on attend l'avis de la Haute Autorité de Santé pour savoir ce qui sera recommandé l'hiver prochain. Elle pourrait conseiller de vacciner tous les bébés de 0 à 6 mois ou de 0 à 1 an. 300 000 à 600 000 doses de Beyfortus pourraient être commandées par l'État pour septembre 2024.
Merci Mathieu Prior du service Société d'Europe 1. Et comme nous vous l'annoncions il y a quelques semaines sur Europe 1, la vaccination contre la méningite pour les nourrissons sera bien obligatoire dès 2025. Deux vaccins cibleront désormais 5 souches bactériennes de méningite au lieu d'une seule actuellement. 13h13, souvenez-vous, en septembre 2023, le président de la République lançait une grande collecte nationale sur 4 ans pour la sauvegarde des édifices religieux de nos villages. Alors les 100 premiers sites qui bénéficieront de cette collecte viennent d'être dévoilés et parmi eux, il y a l'église de Jumeauville dans les Yvelines. Le reportage d'Alexis de la Fléchère.
Nous sommes actuellement dans les combles de l'église de Jumeauville. On est vraiment dans la charpente.
Une magnifique charpente gothique qui menaçait de s'écrouler, mais qui a donc été sécurisée sous l'œil avisé de Johan Touchard, l'architecte missionné sur le chantier.
Le plus gros des travaux a été fait, et aujourd'hui on peut dire que oui, on a sauvé cette église.
Une église dont la structure est sauvée, mais l'adjointe au maire, Françoise Alexandre, compte bien sur l'argent de la Fondation du patrimoine pour avancer sur d'autres parties.
Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a le chœur, il y a encore la charpente et la toiture du chœur aussi, puisque là pour l'instant on n'a fait que la nef.
Il reste encore du travail, mais au vu de tout ce qui a été entrepris, c'est déjà pour le maire Jean-Claude Langlois beaucoup d'émotions.
Et j'ai été enfant de chœur pendant 6 ans dans cette église. Et ça, c'est pour ça que, croyant ou pas, beaucoup disent de toute manière cette église c'est un monument. Et ce monument, il faut le conserver.
Et la vie devrait reprendre dans cette église de Jumeauville d'ici quelques mois. Baptême ou autres mariages pourront y être célébrés.
Et qui sait si un jour, le jeune homme dont je vais vous parler ne prêchera pas dans l'une de ces églises. Il s'appelle Ludovic Duet, il a 32 ans, il a été finaliste du championnat de France de volleyball avec l'équipe de Saint-Nazaire. Et il s'apprête à changer de vie pour rentrer dans les ordres. Le portrait signé Sandrine Prioul pour Europe 1.
Certains m'appellent le prêtre dans le vestiaire.
Exit les ambiances survoltées des parquets de volley-ball pour celui qui vient de décider de se consacrer à sa spiritualité.
J'ai un attrait qui pour moi vient du Seigneur et dans ma foi, quand je me déshabille et qu'il y a ma croix au-dessus de mon t-shirt, le raccourci est vite vu dans le vestiaire. Et le short et le ballon, ils seront à la récré quand j'aurai des récrés. Il faut le tenter. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai envie de me lancer. Puis ça me donnera justement des éléments de réponse s'il y a un manque qui est trop fort ou pas.
Ludovic Duet, libéraux d'1m92, qui sera d'ici quelques semaines dans un monastère au milieu des chanoines d'Augustin. Objectif, l'ordination.
Il va y avoir des renoncements, mais c'est une vocation. Et l'image qu'on en a n'est pas forcément la réalité. J'ai été impressionné et j'aime énormément la vie des chanoines. Les chanoines sont très frais et dynamiques, et tout sauf austères justement.
Le futur prêtre semble enthousiaste. Une vie monastique dans un cadre réglé et largement masculin. « Je connais déjà », sourit le capitaine de Saint-Nazaire Volleyball.
Le reportage de Sandrine Prioul, la correspondante Europe 1 dans le Grand Ouest. Allez, comme 5 jours, on fait un point sur les marchés avec vous, Didier Hameau de boursier.com. Et ça monte un peu.
Oui, allez, ça remonte de 0,3%, 8038 points. Un marché assez calme sur le CAC 40, ça monte quand même, avec des publications bien reçues du côté de certaines entreprises qui continuent d'animer le marché. On a aujourd'hui Amundi, le groupe financier gagne 6%, 67 euros après les résultats donc très bien reçu en bourse. Saint-Gobain aussi progresse de 6% à 75 euros pour les mêmes raisons. Ailleurs, ça remonte. Hein, Francfort plus 0,7%, Amsterdam plus 0,6%, Bruxelles plus 0,1%, le CAC 40 en hausse de 0,3%, 8038 points.
Merci Didier Hameau de boursier.com. La météo maintenant avec vous, Géraldine Hamon, et le week-end s'annonce chaotique.
Et oui, malheureusement, une couverture nuageuse persiste en effet par la façade atlantique des plages landaises au golfe du Lion et ailleurs. Très peu de régions seront épargnées par les averses, des averses qui prennent même un caractère orageux et qui seront plus marquées des côtes normandes et bretonnes vers les pays de la Loire et l'ouest du massif central. Il neige aussi au-delà de 1800 mètres sur les Pyrénées et 1600 mètres sur les Alpes. Et en fin de journée, et notamment en soirée, ce temps maussade bien va continuer. Une nouvelle onde pluvieuse arrive en Aquitaine. Des pluies seront marquées. Elles arroseront les Cévennes où le vent de sud à sud-est se renforme pour atteindre 80 km/h. Et côté température, ça se radoucit un peu. Il fera 10 degrés à Dunkerque, 11 à Boulogne-sur-Mer, 13 à Lille, 15 à Caen et La Rochelle, 16 à Marseille et Lyon, 17 à Paris et Bordeaux, 19 à Ajaccio et Bastia, jusqu'à 20 degrés à Carcassonne. Et le reste du week-end, sera très très instable et perturbé. Des orages sont à prévoir demain notamment vers l'ouest et des pluies durables en Languedoc et en PACA.
Merci Géraldine Hamon. Donc lunettes de soleil et ciré, le combo. On reste ensemble jusqu'à 14h bien sûr, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21 si vous voulez réagir sur les sujets que l'on va évoquer dans quelques instants avec l'avocat Gilles William Goldadel et le magistrat honoraire Philippe Bilger. La mobilisation des étudiants pro-palestiniens à Sciences Po, l'islamisme qui avance à bas bruit à Bruxelles, Gérald Darmanin qui se dit favorable au couvre-feu pour les mineurs, et puis après le grand débat de sa vie privée dévoilée par le procureur hier soir, les managers et la famille de Kenji Girac s'insurgent. Venez réagir.
Au 01 80 20 39 21 Europe 1, les 13h19, vous écoutez Céline Géraud.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde?
DS Automobile présente le surclassement en DS7 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux ? Jusqu'au 30 avril, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS7 Crossback E-Tense hybride rechargeable d'occasion à partir de 390€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Pensez à covoiturer.
Carrefour. Quand vous me dites « la 1664 est moelleuse, complexe, avec des notes florales et une fine amertume », oh, je pourrais en parler pendant des heures. Eh bien, je vous réponds qu'avec 30% de remise immédiate, le pack de 28 bières blondes 1664 de 25 centilitres est à 12,88€ seulement au lieu de 18,40€. Et c'est jusqu'à lundi chez Carrefour et Carrefour Market.
Carrefour, soit 1,84€ le litre. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Avec But, on peut faire la cuisine encore plus facilement. C'est quoi le secret ?
En ce moment, chez But et sur But.fr, jusqu'à moins 30% sur une sélection de cuisines, plus la pause offerte et des offres de financement incroyables. Conditions de l'offre en magasin et sur But.fr.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. En général, la machine à café, c'est la bonne excuse pour faire des pauses au boulot. Mais là, avec votre machine Nescafé,
oui.
Eh ben, j'ai aussi une excuse pour faire des pauses quand je télétravaille.
Et ça fait du bon café. Du 23 avril au 4 mai, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'Achat, la machine Nescafé Dolce Gusto Minimi et ses 64 capsule offerte avec 20€ de réduction est à 39,90€. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Garantie 2 ans, modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Europe 1 13h.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1 13h21. Vous écoutez Céline Géraud et vous décryptez Céline aujourd'hui. L'actualité de ce vendredi 26 avril avec l'avocat Gilles William Goldnadel et le magistrat honoraire Philippe Bilger.
Bonjour messieurs, bienvenue à bord.
Bonjour.
Merci d'être là avec nous en direct pour décrypter l'actualité. Alors évidemment, ça ne vous a pas échappé. Plus d'une cinquantaine d'étudiants pro-palestiniens ont occupé une nouvelle fois le bâtiment de la rue Saint-Guillaume, Sciences Po Paris. Ils réclament la condamnation des agissements d'Israël par Sciences Po et également une renégociation des partenariats de Sciences Po. C'est-à-dire que Sciences Po boycotte les universités et les entreprises qui ne dénoncent pas ce qu'ils qualifient de génocide palestinien. Et ce matin, eh bien, le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, leur a envoyé un petit message. Écoutez.
Je voulais à tout prix vous adresser le salut le plus reconnaissant et le plus admiratif pour le travail que vous avez engagé en occupant les lieux et puis ce matin en vous rassemblant. Vous êtes à cet instant, pour nous, l'honneur de notre pays. L'image la plus forte que nous puissions donner du fait que les Français n'acceptent pas, ne se résignent pas, ne laissent pas faire sans agir l'odieux, l'abominable massacre, le terrible génocide à Gaza. Vous serez bien sûr soumis à toutes sortes de pressions et de brutalités, mais j'ai la certitude que vous y résisterez et que, en le faisant, vous encouragerez d'autres consciences, d'autres actions à se mettre en mouvement.
Voilà, les étudiants, après le message donc, qui a été diffusé devant le bâtiment de Sciences Po à tous ces manifestants, Gilles William Goldnadel, une réaction, vous comprenez, vous êtes choqué par ce blocus ?
Choqué est un doux euphémisme. En vérité, il singe ce qui se passe actuellement sur les campus américains, mais à leur manière. Vous avez bien vu qu'ils sont cornaqués par le chef des Insoumis. Et alors, là où on
le
est
prophète,
dans...
presque. Pardon ? Enfin, le prophète,
oui,
presque.
Oui, bien sûr, d'une certaine manière. Alors, il y a des filles voilées, il y a tout ce qu'il faut. Mais le comble, pour moi, de l'ignominie, chaque mot étant pesé, c'est l'utilisation du terme génocide.
Oui.
La présidente de la Cour internationale a encore dit, je crois, hier, que jamais la Cour internationale n'avait envisagé qu'il y avait un génocide. Ils ont parlé d'un risque de génocide, comme dans tout conflit. Mais ça y est, le mythe est installé, et je ne crains pas de faire la comparaison avec le même mythe qui était, de manière ancestrale, les bébés chrétiens que les Juifs empoisonnaient à Pâques. C'est exactement de la même mauvaise farine. Mais on en est là, il faut bien le comprendre.
Pour le président du CRIF, hein, ce mouvement n'a rien de massif, mais il fait peser, dit-il, un climat de terreur intellectuelle sur une partie des étudiants juifs. Philippe Bilger, magistrat honoraire.
Au risque de rendre notre dialogue un peu consensuel, je rejoins évidemment totalement Gilles William sur ce qu'il vient de dire au sujet du génocide. Et pour ma part, il y a quelque chose d'autre qui m'indigne. Quand il ose parler de
Jean-Luc Mélenchon,
de honte, absolument de honte et d'honneur, alors que pour moi c'est l'ignominie et le déshonneur qu'un homme comme lui, qui a connu dans le passé parfois des éclairs d'intelligence et de lucidité, ose parler de la sorte à une minorité qui est en train de dévoyer le militantisme, qui investit Sciences Po et paraît-il, on l'a appris tout à l'heure, enfin, la ministre de l'université serait intervenue en indiquant que la ligne rouge serait dépassée.
Eh bien, justement, on va tout de suite filer rue Saint-Guillaume, retrouver bien, tout simplement l'envoyé spécial d'Europe 1, Guillaume Dominguez, qui est avec nous en direct dans Europe 1 13h. Il y a du nouveau, Guillaume Dominguez.
Et oui, les manifestants viennent de faire une déclaration au mégaphone depuis le premier étage du bâtiment. Alors la direction de Sciences Po leur a posé une sorte d'ultimatum. Soit les étudiants lèvent le campus et désignent des représentants du mouvement pour discuter des revendications, soit la direction prévient qu'elle déplacera la date des examens à la fin juin, ce qui forcerait les étudiants à rester à la fac un mois de plus. Et les étudiants ont une quarantaine de minutes pour donner une réponse. Et à l'instant, là, au moment où je vous parle, un vote est en train de s'organiser dans l'Assemblée devant le bâtiment de Sciences Politiques. Ils ont quelques minutes pour prendre une décision. Une chose est sûre, la direction de Sciences Politiques a d'ores et déjà annoncé qu'il n'était pas question de rompre les liens avec, de l'université avec Israël.
Merci pour ces précisions, Guillaume Dominguez. Vous voyez, on a l'information effectivement en direct. C'est assez stupéfiant alors, quand même ce qui se passe, ce bras de fer.
Pardon, peut-être suis-je ignorant des détails de ces manifestations, mais examiner leurs revendications, ça veut dire quoi? Quelle légitimité ils ont en occupant Sciences Po, d'une manière d'ailleurs même plus militante, d'une partialité absolue et scandaleuse?
Ce qui est intéressant aussi, c'est la sociologie de cette université qui bascule dans une autre dimension.
Oui, encore une fois, c'est une occupation illégale par une cinquantaine de personnes. Je ne suis même pas sûr que tous soient de Sciences Po, d'ailleurs. Il faudrait vérifier. Et au nom de cela, plutôt qu'ils soient arrêtés par la police, ensuite exclus éventuellement pour ceux qui appartiennent à Sciences Po, au nom de ça, on va défavoriser les étudiants sérieux en déplaçant la date des examens. Mais c'est dénué de tout sens. La réalité, elle est là. Mais il ne faut pas perdre de vue ce qui est bien plus grave et ce qui se passe actuellement aux États-Unis,
c'est ça,
où le wokisme règne en maître. Ne jamais séparer cet antisémitisme-là d'un racisme anti-blanc.
On va prolonger le débat dans quelques instants avec vous. D'accord. Et avec Chloé, qui est professeure, et sa fille est à Sciences Po. Et elle va nous raconter, ça va être très intéressant, les coulisses. Elle est outrée par la situation. Sa fille, évidemment, vit cette situation de plein fouet. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1.
13h14, vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1.
Bonjour, c'est Laurent Mariotte.
Europe 1, la table des bons vivants.
Une vague de froid a traversé le pays. Quel impact sur les futures récoltes et les vignes? On en parle avec nos agriculteurs. La chef Stéphanie Lequellec nous rejoint pour le plat du jour. Ancienne candidate et aujourd'hui jurée de l'émission Top Chef, nous profitons de sa présence pour passer les concours de cuisine à la casserole. Des petits pois, du tarama, de jolis vins, il ne manque plus que vous.
La table des bons vivants.
Rendez-vous demain de 11h à 12h30 sur Europe 1.
On en parle.
La filière bovine s'engage à vous offrir une viande de qualité et plus durable. On en parle dans un instant avec Olivier Boulat, qui est éleveur à Belvezet, en Lozère.
Il y a une Opel pour chaque. Chaque. Et chaque. Parce qu'il y a une Opel pour chaque métier. Avec 20 systèmes d'aide à la conduite et jusqu'à 420 km d'autonomie en électrique, découvrez la nouvelle gamme de véhicules utilitaires Opel, disponible en version thermique et électrique. Et pendant les journées Opel Pro, profitez de 5 ans de garantie offerte. Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel pour trouver le partenaire de vos ambitions. Garantie constructeur de 2 ans plus 3 ans d'extension offerte jusqu'au 30 avril. Détails sur opel.fr.
Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé.
Indispensable à notre équilibre digestif, le microbiote joue également un rôle essentiel sur notre cerveau. Mais comment bien le soigner ? Traitements et médicaments existent désormais. Le Figaro Santé consacre son nouveau dossier au microbiote. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand ?
Désolé, le mouton à cinq pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit.
APEC, donnez de l'élan à votre avenir.
Il était une fois une vaillante jeune fille ayant quitté son sud natal pour étudier. Pour retrouver le bon goût de chez elle, elle croqua dans le nougat de Montélimar Pays Gourmand, reconnu saveur de l'année 2024 à 3,19€ les 200 grammes chez Aldi. Et c'était comme à la maison. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, 15,96€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, info sur aldi.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Europe 1, le journal permanent.
À 13h30 sur Europe 1 et avec vous Céline Giraud.
Keffiyeh et drapeau palestinien devant Sciences Po, bloqué par des militants se réclamant d'un comité Palestine de Sciences Po qui demande la condamnation claire d'Israël et la fin des collaborations avec les institutions complices de l'oppression systémique du peuple palestinien. Fin de citation. Aux États-Unis, les campus universitaires sont également perturbés par les activistes pro-Palestine. Certaines des universités les plus prestigieuses au monde sont concernées, Harvard, Yale ou encore Princeton. La direction de Columbia, New York a décidé de reporter l'évacuation des étudiants qui occupent le campus. Gérald Darmanin soutient les maires qui instaurent des couvre-feux pour les mineurs de 13 ans, comme à Béziers et bientôt à Nice. Le ministre de l'Intérieur estime qu'il n'est pas normal que des enfants, des adolescents, des mineurs soient dans la rue à minuit. Deux hommes ont été inculpés au Royaume-Uni trois jours après la mort de cinq migrants qui tentaient de traverser la Manche. Ils sont actuellement en garde à vue et devraient être présentés devant un tribunal du Kent aujourd'hui. Le Rassemblement national fait la course en tête avec 30% d'intention de vote aux élections européennes, selon le baromètre OpinionWay pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche. Un point de plus que la semaine dernière. Renaissance est à 18%, le PLS à 13%, LFI à 8%. Les agences Fitch et Moody's vont donner vers 22h dans la soirée leur notation sur la santé financière de la France. La dette française dépasse les 3000 milliards d'euros et atteint désormais 110% du PIB français. Enfin, le début de ce soir de la 31e journée de Ligue 1, Montpellier-Nantes, coup d'envoi 21h.
13h32, bienvenue sur Europe 1. Le débat continue dans Europe 1 13h avec vous, Céline Giraud, et vos deux chroniqueurs du jour, Philippe Bilger, magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole, et Gilles William Golnadel, avocat et essayiste.
Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, bien sûr, on est ensemble jusqu'à 14h. Si, comme chaque jour, vous voulez réagir, intervenir, interagir aussi avec nos chroniqueurs, eh bien n'hésitez pas, 01 80 20 39 21, on poursuit l'échange autour de ce blocus du côté de Sciences Po. Une cinquantaine d'étudiants pro-palestiniens ont occupé une nouvelle fois le campus. Et on est avec Chloé. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Merci beaucoup.
Merci de me recevoir dans votre émission.
Merci beaucoup de nous appeler. Vous nous écoutez en Ile-de-France. Alors je précise pour nos auditeurs que vous êtes professeur, mais que votre fille est à Sciences Po Paris. Racontez-nous.
Écoutez, ma fille est à Sciences Po. Et c'est vrai que, écoutez, moi, je voulais réagir parce que souvent, on associe Sciences Po à des fils ou filles à papa qui sont issus de... les parents ont fait Sciences Po, etc. Et moi, c'est pas du tout le cas de ma fille qui a vraiment réussi Sciences Po par rapport à son mérite. À son mérite, parce qu'elle travaillait très bien depuis son plus jeune âge. Donc ça, c'est une première chose. Et là, je viens en plus d'apprendre que les examens allaient peut-être être reportés alors qu'il y a une cinquantaine ou 70 étudiants qui...
Ce que nous disait Guillaume Dominguez, les examens pourraient être reportés d'un mois.
Moi, je trouve que c'est vraiment une prise de tâche parce que les examens, en principe, c'est pas le 15 mai, donc avec des personnes qui doivent faire des stages, etc., moi, je trouve que c'est quand même pas... C'est pas normal qu'il y ait une prise de tâche et que Sciences Po se résume justement à ce mouvement, alors qu'il y a de nombreux étudiants qui font même pas forcément de la politique tout en...
Racontez-nous, Chloé, justement, votre fille, comment vit-elle la situation ?
Disons qu'elle se rend compte qu'il n'y a pas possibilité à Sciences Po d'avoir sa propre conscience politique. On en a puisé des idées à droite et à gauche, mais on est obligé d'embrasser l'ensemble des considérations d'un parti. Et si, par exemple, là, elle leur dit « Mais attendez, vous ne parlez pas des otages, vous ne condamnez pas vraiment le Hamas », à ce moment-là, elle se fait traiter de fasciste et ça va pas du tout, quoi.
Ah oui, d'accord, carrément. On la traite de fasciste.
Oui.
Oui, et elle, donc il y a une pression qui s'installe et que votre fille vit au quotidien. Elle est prise en otage aussi.
Bah, disons que c'est une pression. À la limite, on ne peut rien dire. On ne peut pas.
Mm-hmm. Mais on entend. Vous vous attendiez à ce que ce soit comme ça, Sciences Po, quand vous avez décidé d'y inscrire votre fille?
Disons que ma fille, non, elle ne s'attendait pas à ce que ça soit comme ça. En plus, ce n'était pas des études, franchement, par rapport à la politique, mais pour un autre aspect. Elle ne s'attendait pas que ça soit, en fait, comme ça. Mais elle, justement, ce qu'elle reproche à ce qui est dit, c'est qu'il ne parle pas de tragédie. Il parle de tragédie, il ne parle pas de pogrom. Pour eux, en plus, c'est une association qui s'est faite le 11 octobre, parce que c'est un peu ce qu'elle m'a dit, et il ne parle que de tragédie.
Merci.
Voilà.
Merci Chloé pour ce témoignage édifiant et ce retour d'expérience, hein, si je peux employer ce mot-là, de votre fille qui est donc étudiante à Sciences Po Paris, on le rappelle, et qui est outrée par ce qui se passe. Le report des examens, ça c'est terrible. On entendait d'ailleurs dans Repin 13h tout à l'heure des étudiants qui disaient « Mais nous on est bloqués, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas aller étudier chez le William. »
Il y a un véritable mouvement là qui pratique une sorte de terrorisme intellectuel.
Mais il y a une dérive de cette école.
Non, mais c'est un mélange, si vous voulez, de gauchisme et d'islamisme. On est en plein islamo-gauchisme. La réalité est là. Donc il y a le terrorisme intellectuel. Il y a même des pressions physiques. Moi, j'ai vu des pauvres étudiants qui essayaient effectivement de dire ce que la fille de l'auditrice disait. Il risque de se faire brutaliser. Mais je vous renvoie encore une fois à la situation américaine. Il y avait un bon article dans le Figaro du correspondant américain Adrian Jones hier. Il est sur les campus américains maintenant. Il y a de l'antisémitisme, clairement. Et il y avait un professeur qui faisait remarquer que si on disait le quart de la moitié de cela à propos de Noirs ou d'Arabes, ce serait considéré comme totalement insupportable. Et je vous indique, il faut voir ça aussi, pas seulement sous l'angle de l'antisémitisme, mais sous l'angle aussi du racisme anti-blanc. Sinon, on est condamné à ne rien comprendre.
Au-delà de la contagion évidente avec la dérive des universités américaines, moi, j'ai un raisonnement peut-être limité, simpliste. Je vois l'incroyable nuisance d'une minorité activiste et délirante, tout de même. Et par moments, je me demande, au risque de tomber dans un discours qui place au premier point l'autorité, mais qu'est-ce qu'on est en train de transiger, de négocier, de pactiser avec ce groupe-là? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire preuve d'une forme de rudesse légitime et les sortir de Sciences Po où ils n'ont rien à faire? Franchement, est-ce que les majorités auront un jour le droit d'être respectées?
On parle de Paris, Gilles William, Philippe, mais on va aller à Bruxelles. Tiens, je vous emmène en Belgique, la capitale européenne. Est-elle le foyer de l'islam radical? On se pose la question pourquoi le plat pays, cette fois moins peuplé que la France, est tristement connu pour son quartier Molenbeek, laboratoire des attentats de novembre 2015 à Paris et au dernier en date en Belgique. Deux Suédois abattus en octobre dernier par un homme se revendiquant combattant de l'État islamique. Voilà pour les infos. Caroline Baudry, notre reporter Europe 1, a passé quelques jours à Bruxelles et ce qu'elle a vu est stupéfiant. Écoutez un extrait de son reportage.
Oui, sur un boulevard de l'hypercentre ou à Skarbek, une commune plus populaire, l'islam rigoriste a en fait carrément pignon sur rue à quelques kilomètres du Parlement européen. On a déambulé avec Fadila Maaroufi, votre invitée de 7h10, dans la rue de Brabant, par exemple. Premier stop devant une librairie où les personnages dessinés dans les livres pour enfants n'ont pas de visage, conformément à une vision radicale de l'islam.
En réalité, c'est du prosélytisme. Là, vous avez par exemple, voilà, un mannequin sans visage. Et on n'avait pas autant de boutiques pour voir l'intégrale, en fait. Vous en aviez une ou deux. Et ce qu'on n'avait pas avant, c'est qu'il n'y avait pas pour enfants non plus. Et c'est une petite fille qui doit avoir 9-10 ans, qui porte un voile intégral. Bon, à part le visage, tout le reste est couvert. Les petites filles sont sexualisées depuis toutes petites. Et donc, c'est un véritable problème. Ça vient des pays du Golfe, en fait. Arabie Saoudite, Dubaï, Golf, Qatar.
Fadia est menacée de mort pour ses prises de position. Elle marche dans l'angoisse, elle porte un masque chirurgical pour ne pas être reconnue dans la rue. Elle milite pour la laïcité et reçoit de nombreux signalements qui viennent surtout des enseignants comme Raymonde.
C'est la politique de l'autruche lors des classes de dépaysement d'une semaine. Il y a des enfants qui voulaient prendre leur tapis de prière. En primaire, il y a beaucoup de petites fêtes. Il y a des mamans qui ne voulaient pas que les enfants aillent chanter, aillent danser, parce que c'est haram. Il y a des enfants qui ont des maux de tête parce qu'ils n'osent pas manger quand c'est le ramadan. Et ça, avant, il n'y avait pas.
Fadila Maroufi, directrice de l'Observatoire des fondamentalistes à Bruxelles. Elle était l'invitée d'Europe 1 matin, ce matin à 7h10 avec Dimitri Pavlenko. Ce qu'on vient d'entendre, Philippe Bilger, est quand même stupéfiant là aussi.
Absolument. Moi, je n'aime pas en général quand on considère que l'immigration et l'islamisme sont la cause de tout, tout le temps. Mais quand on voit, quand on entend ce reportage, je suis en train de me demander si je ne suis pas le comble de la naïveté, en définitive, quand on voit l'emprise en Belgique, mais sans doute ailleurs, d'un islamisme conquérant, pardon de tomber dans une banalité, mais je m'interroge très sérieusement.
Gilles-William Golnadel.
Je crois, Philippe, qu'il ne faut pas s'excuser maintenant de constater, non pas que c'est la cause de tous les maux, mais que c'est la cause principale. Je dis maintenant que c'était mieux avant l'immigration massive et invasive. La réalité, elle est là, que ce soit au plan sécuritaire, que ce soit au plan culturel, que ce soit le sort même des Juifs français à l'intérieur du sort de tous les Juifs français. Il se trouve que la Belgique, c'est la France en pire. Sur le plan justement de l'immigration, sur le plan de l'islamisme, c'est la France en pire.
Il y a une particularité liée à la laïcité là-bas. On le rappelle, il y a entre 22 et 44% de musulmans par commune. Bruxelles est divisée en 19 communes. Il y a les Wallons, les Flamands, et la laïcité n'est pas la même que chez nous en France.
Je ne pense pas que ce soit l'explication. Vous savez, comme je le dis dans mon dernier bouquin, le nombre, c'est une grande chose. C'est une grande chose que le nombre. Et là, nous avons atteint en France vraiment le seuil d'intolérance. Ne vous y trompez pas, ce dont on parle ce matin, c'est la conséquence aussi de l'immigration massive et invasive sur laquelle monsieur Mélenchon jette un regard pornographique. La réalité, elle est là, si vous voulez. Donc on ne sort pas de là. Oui, j'affirme que c'est le problème numéro un, qui est un problème existentiel, où on le règle, où l'on meurt.
Et en Belgique, en revanche, effectivement, les frères musulmans ont commencé vraiment à prendre de plus en plus de place. Oui. Il y a eu Tariq Ramadan qui était omniprésent dans les médias, dans les universités, qui a été présenté comme le référent des musulmans là-bas. Donc il y a quand même une particularité à Bruxelles, et on est au cœur d'une ville qui est tout près d'ici.
Et je crois, là où évidemment Gilles-William a raison, et peut-être que ma pudeur verbale est complètement déplacée, aujourd'hui, ces constats qui sont très lucides et pertinents me semblent de plus en plus acceptés, même si bien sûr on a droit, quand on les fait, à la facilité des insultes fascistes, que sais-je encore. Mais cela devient de plus en plus résiduel, donc il y a une forme de réalité qui entre dans les têtes.
Allez, 13h42, on est ensemble jusqu'à 14h. On va continuer à parler de l'actualité. On va écouter Gérald Darmanin qui se dit favorable au couvre-feu pour les mineurs. L'idée fait son chemin au gouvernement aussi. On en parle dans quelques instants avec vous. À tout de suite.
Vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21 13h43. Vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1. Europe 1.
Rejoignez-nous sur l'antenne d'Europe 1. C'est la famille, on est tous ensemble.
Je vous écoute tous les jours, c'est de la bonne humeur. Je ris en voiture en vous écoutant quand je rentre du travail. Et j'ai vraiment passé un bon moment.
On vous embrasse, Valérie.
Bravo.
Ça part bien, les amis.
Qu'est-ce que c'est la chanson du matinalier?
Vous connaissez pas la chanson du matinalier?
L'actu, c'est ma meilleure copine. Elle me fait rire quand elle me déprime. Vous connaissez pas celle-là?
Non, je connaissais pas, non.
C'est extrêmement important que vous puissiez nous dire ce que vous avez sur le cœur.
Je vous écoute toujours avec beaucoup d'attention et je vous remercie de votre aide.
Europe 1.
Les Français ont envie d'avoir des images positives.
Avec vous.
Mmh,
C'est si bon.
Limousine.
À l'aubergine.
À la bénédictine.
À la poitevine.
À la girondine.
En mousseline.
Chez Micheline.
En mandarine.
Façon Justine.
En gélatine.
À la cantine.
En tartine.
En tagine.
En verrine.
So bling bling.
En smoking.
En jogging.
Chez la voisine.
De la grande cuisine.
Chez nous, le bœuf. C'est si bon. Qu'il y en a pour toutes les bouches.
Et oui.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. J'ai profité de votre offre 2 plus 1 offert sur les perles de lait.
Oh, trop bon ça.
Oui, mais bizarrement, le pack offert est encore meilleur que les deux autres. Vous savez pourquoi ?
Ah, ça, c'est juste le goût des bons plans. Du 23 avril au 4 mai, pendant l'opération de super pouvoir d'achat chez Leclerc, le troisième pack offre découverte perles de lait vanille est offert. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Même promotion disponible sur d'autres variétés, modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus.
Europe 1, 13h.
De 13h à 14h avec vous Céline Giroux. Aujourd'hui vos deux chroniqueurs du jour, l'avocat et essayiste Gilles William Godnadel, magistrat honoraire aussi, président de l'Institut de la Parole Philippe Bilger.
Et on va évidemment revenir tout de suite sur ce couvre-feu pour les mineurs. L'idée fait son chemin. Écoutez Gérald Darmanin.
Il n'est pas normal que des enfants, des adolescents, des mineurs soient dans la rue à minuit, 1h, 2h du matin. Ils doivent être chez eux. Donc je suis favorable au couvre-feu qui touche les mineurs. Et les maires qui ont la compétence pour prendre des arrêtés, en effet comme l'État, pour empêcher ces mineurs d'être dehors, notamment les moins de 13 ans. On parle d'enfants de moins de 13 ans. Je les soutiens et les préfets de la République les soutiendront. Il faut évidemment que le tribunal administratif, s'il est saisi, puisse voir... Il n'y a pas d'excès de pouvoir, mais les maires qui le font sont des gens tout à fait raisonnables. J'ai entendu ce que disait le maire de Béziers. Moi, je veux dire que je soutiens ces initiatives, même si évidemment ce n'est pas à l'État de se substituer à tous les territoires et à toutes les communes.
Voilà, Gérald Darmanin, qui se dit favorable à l'idée d'un couvre-feu, Philippe Bilger.
Gérald Darmanin n'est de loin pas le plus mauvais ministre de ce gouvernement. Et il fait tout ce qu'il peut avec volonté et lucidité. Et
faut-il étendre, par exemple, le couvre-feu, ça se fait à Béziers, ça risque de se faire à Nice, ça va se faire à Nice. Perpignan pourrait suivre. À des villes où il y a des problèmes de délinquance, on peut penser à Nîmes, à Toulouse.
La difficulté, me semble-t-il, c'est que je suis favorable au couvre-feu pour les mineurs de 13 ans. Et il faut bien voir que ce couvre-feu est de nature à pallier les défaillances éducatives. Mais je sais bien que la délinquance, elle relève presque plus des 14, 15 à 17 ans. Mais le couvre-feu tel que l'approuve Gérald Darmanin a mon total assentiment.
Gilles William Golnadel, au niveau du droit, est-ce qu'on peut...
Oui, je suis sur la même ligne que mon contradicteur. J'avais d'ailleurs hier au téléphone mon ami Robert Ménard, que j'ai par ailleurs l'honneur de défendre, et qui me rappelait que la dernière fois qu'il avait fait ce couvre-feu, qui me paraît une triste évidence au point où nous en sommes, il y avait la Ligue des droits de l'homme.
Qui s'était effectivement...
La Ligue des droits de l'homme qui est
maintenant... Saisie du sujet.
Qui n'est plus qu'une association dévoyée, qui défend le voile. Ça n'a plus rien à voir avec la Ligue des droits de l'homme. De la grande époque. Mais donc c'est la Ligue des droits de l'homme, et malheureusement il y a souvent un mauvais arbitrage qui ne m'étonnera pas d'ailleurs du Conseil d'État.
D'accord, il a réussi à réinstaurer à Béziers, ça existe aussi à Pointe-à-Pitre d'ailleurs, à l'initiative de Gérald Darmanin.
J'ai la même opinion favorable que mon ami Bilger sur Darmanin, qui est un excellent ministre de l'Intérieur, voilà. C'est la notable exception de ce gouvernement, mais et qui dit ce qu'il faut dire. Je n'arrive même pas à comprendre. Franchement, même quand je fais un effort de compréhension, je n'arrive pas à comprendre ce que même l'être le plus libertaire possible pourrait contester dans le fait qu'un enfant de 13 ans n'a pas sa place au niveau de sa propre sécurité. Tout seul dans la rue le soir. Il y a quelque chose qui me dépasse.
Alors les maires ont la compétence pour prendre des arrêtés, comme il l'a dit, mais les préfets aussi vont les soutenir. Il faut évidemment que le tribunal administratif, s'il est saisi, puisse vérifier qu'il n'y ait pas d'excès de pouvoir sur ce point-là.
Je ne vois pas en quoi il y a un excès de pouvoir. lorsque vous limitez dans le temps, ce qui est le cas, et lorsque vous limitez également dans l'âge des gens concernés, je ne vois pas l'excès de pouvoir pour un maire qui est censé en avoir.
En réalité... derrière cela, il y a cette perversion française.
Oui, parce que ça a été instauré à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Il n'y a pas eu de débat. Et là, pourquoi est-ce que quand on parle de Béziers ou de Nice, on en débat, on discute, on s'insurge ?
Parce qu'on retrouve à chaque fois que la France d'autorité édicte quelque chose de nécessaire, on entend, et c'est les seules objections qui sont faites à ces évidents couvre-feux. Ah, mais il faut faire attention parce que certes le présent les impose, mais on ne sait jamais ce qu'un autre pouvoir pourrait faire demain, ce qui est une absurdité.
Mmh. Non, mais c'est une bonne remarque et une bonne question. C'est bizarre que ces belles âmes n'ont rien à dire quand il s'agit de la Guadeloupe. Mmh. Comme si, quelque part, malgré tout, à leur insu, dans leur inconscient, il n'y aurait pas une forme de néocolonialisme.
Donc il y a quand même quelques élus ultramarins qui s'insurgent en disant voilà, que la Ligue des droits de l'homme ne se saisit pas du sujet pour la Guadeloupe. Voilà, donc ça existe. Ouais. Allez, 13h50, j'aimerais vous entendre évidemment sur cette affaire Kenji Girac. Hein. Je rappelle que vous êtes magistrat honoraire, avocat. Alors vous avez suivi la conférence de presse lunaire, j'ai envie de dire, du procureur de Mont-de-Marsan qui a retracé les faits de manière détaillée. Un enchaînement de détails, un grand déballage qui interpelle. Je vous propose d'écouter un petit medley de ce qui a été dit hier soir.
L'intégration de Soraya Miranda a été difficile, la famille ayant manifestement un peu peur de voir, je la cite, une gadji s'intégrer. Des tensions sont apparues du fait d'une addiction à l'alcool de la part de Kenji Girac. Elle décrit Kenji comme étant l'objet de cuites de plus en plus nombreuses et de plus en plus longues sur d'éventuelles consommations de stupéfiants de la part de Kenji Girac. Elle évoque effectivement une consommation régulière de cocaïne à raison d'une à deux fois par semaine. Il lui avait déjà dit dans le passé qu'il allait se mettre une balle ou s'ouvrir la gorge dans le cadre de disputes qu'ils avaient déjà pu avoir. Je sors un peu de mon rôle de procureur, je ne suis pas son manager non plus, mais il regrette auprès de tous ceux qui l'ont supporté durant toutes ces années et qu'il espère revoir vite que cet événement soit intervenu. Voilà ce que je souhaitais vous dire.
Alors, le procureur de Mont-de-Marsan, on a parlé d'addiction, d'intimité du couple, première rencontre, les disputes, les SMS envoyés, le couscous au dîner. Tout ça pour nous dire finalement à l'arrivée que c'était le scénario d'un suicide simulé qui était retenu, qu'il n'y avait rien de répréhensible pénalement et que l'affaire serait prochainement classée sans suite. Gilles-William Golnadel, aujourd'hui les proches et le manager s'insurgent en disant qu'il y a des détails qui n'auraient pas dû être dévoilés. Est-ce que ce procureur avait besoin de tout déballer selon vous ?
Écoutez, je ne veux pas être non plus... C'est le premier défaut qu'on me prête, c'est pas de la flagornerie vis-à-vis des magistrats, et du parquet notamment. Mais je veux pas être inutilement blessant pour ce procureur qui, certes... Alors, ça m'inspire des sentiments mélangés.
Oui.
Parce qu'il y a une forme d'empathie vis-à-vis de Kenji, d'une part, et d'autre part, c'est vrai qu'il donne beaucoup de détails. On pourrait dire quand même qu'il y a eu la violation de la loi, puisqu'il y a eu une prise de stupéfiants, et donc qui pourrait être répréhensible, mais qui ne semble pas vouloir réprimer. Donc je vous avoue que je suis un peu surpris, mais je ne veux pas non plus trop m'acharner sur ce procureur.
Philippe Bilger.
J'aime beaucoup la réserve de mon ami Gilles William, dans la mesure où ça va me permettre peut-être d'être... Mais j'espère avec équité un peu plus sévère.
Ah, j'ai hâte de vous entendre.
Pour le procureur de Mont-de-Marsan, il est évident que c'est une ouverture médiatique très importante, cette affaire Kenji Girac. Mais il est évident que je trouve qu'il ne maîtrise pas l'art des communiqués aussi bien que d'autres procureurs l'ont fait, et à mon avis, il donne trop de détails.
Voilà, c'est ça.
Trop d'informations.
Pourquoi, à votre avis, tous ces détails ? Parce qu'il y a quand même des détails sur l'intimité du couple, leur première rencontre, qui n'avait jamais été révélée, des tensions autour de l'enfant.
Je ne l'accuserai pas.
La compagne n'était pas de communauté gitane, on parle de tabou, le suicide, le rôle des femmes, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées.
Céline Géraud, je ne l'accuserai pas de voyeurisme judiciaire, ça n'est pas le cas. Mais encore une fois, j'y verrais plutôt un débordement par rapport à ce que la technique du communiqué bien maîtrisé imposerait. Mais comme Gilles William, sur ce plan, je n'irai pas jeter une pierre trop vive et trop lourde à l'égard de ce collègue qui a cette affaire qui arrive au parquet de Mont-de-Marsan. Il n'y en a pas de multiples qui prétendent des mois médiatiques.
Oui, oui. Alors, on a un auditeur qui veut réagir. Bonjour Jean-François.
J'en paie l'indulgence.
Voilà. Bonjour Céline.
Merci d'être avec nous en direct.
Oui.
Alors, est-ce que vous avez été choqué, vous, par cette conférence de presse, ou surpris, étonné par cette conférence de presse du procureur de Mont-de-Marsan ?
Eh bien, je vais vous dire mon sentiment. Je n'ai pas été choqué du tout de son allocution. Et même si c'est étalé sur des détails concernant sa vie privée, je pense que comme c'est un chanteur connu,
populaire,
ça sort du cadre d'un fait divers banal.
Mm-hmm. Donc pour vous c'était normal qu'il explique toute l'histoire du début à la fin avec beaucoup de détails.
Oui. Je vais te donner un exemple. Bon, moi je suis de Bordeaux. Il fut un temps où Monsieur Jacques Chaban-Delmas faisait des fêtes festives dans un camp de gitans, et c'est pas pour ça que ça faisait la couverture des journaux. Je pense que même si la famille de Kenji Girac est choquée et je pense que forcément, ça dépasse le cadre juridique.
Merci beaucoup Jean-François pour ce témoignage, donc notre auditeur qui n'est pas surpris par le procureur. Philippe Villégeard, vous pensez que c'était parce que c'était un chanteur connu, populaire, que le procureur s'est fendu d'autant de détails ?
Oui, sûrement, et puis peut-être a-t-il pensé que ces détails étaient nécessaires pour expliquer l'émoi psychologique de Kenji Girac par rapport à cette compagne. J'ajoute que on éprouverait moins de malaise si ce couple n'avait pas été obstinément enquisté dans une discrétion. Personne n'a pu lui reprocher avant.
Oui, mais ce qui peut surprendre, c'est que voilà, il n'y a pas de fait répréhensible pénalement et l'enquête est terminée, sera classée sans suite. Il n'y aura pas de suite, Gilles William. Pourquoi tous ces détails ?
Écoutez, oui, non, mais je vous dis, il y a une sorte. Je pense qu'on cède à un certain voyeurisme par le fait que. Si ça avait été Monsieur X. On n'aurait pas parlé, et par voie de conséquence, il n'y aurait même pas eu de conférence de presse. Mm-hmm. C'est pas une affaire qui nécessitait forcément une communication publique du parquet.
Vianney, le chanteur, est venu au secours en disant voilà, ils vont pouvoir envoyer des remerciements à la presse People pour tous ces détails qui ont été dévoilés jusque-là inconnus pour un chanteur très populaire.
Bon, mais enfin, j'ai vu tellement pire. Sur le plan judiciaire, que j'ai. Enfin, je sais pas, à tort ou à raison, je n'ai pas envie de me déchaîner contre ce procureur.
Voilà. Eh bien, merci pour votre sincérité, Gilles-William Gonalden. Merci beaucoup, Philippe Villégeard. C'était un plaisir. Et 18h, bien sûr, Jacques Seret pour Europe 1 Soir Week-end, la suite de l'information. Et nous, dès lundi, pour de nouvelles aventures à 13h. Merci à tous.
À lundi, Céline. C'était Céline Giraud sur Europe 1. Et très bon début d'après-midi avec la suite de vos programmes et historiquement vôtre, notamment de 15h à 16h, où Stéphane Bern vous fait le récit d'événements de lieux et de personnages qui ont façonné l'histoire. Notez que ce vendredi 26 avril, Stéphane Bern retrace l'histoire de Louise Labbé, la légende de la poésie. Le rendez-vous est pris 15h-16h, historiquement vôtre. Juste avant, c'est Christophe Ondelat, Ondelat raconte Côte B. Excellent après-midi avec nous, bien sûr, sur Europe 1.
On en parle.
Les acteurs de la filière bovine s'engagent au quotidien pour vous offrir une viande de qualité et plus durable. On en parle avec Olivier, éleveur en Lozère. Bonjour.
Bonjour.
Alors en quoi votre modèle d'élevage bovin herbager est-il unique ?
Eh bien d'abord, parce que ce sont des exploitations à taille humaine. Mmh. En moyenne, on a 60 vaches par élevage et on les connaît bien.
leur bien-être, c'est notre première préoccupation.
Oui, j'imagine.
Et puis, nos vaches ont évidemment tout accès à la prairie, et c'est justement l'herbe de cette prairie qui constitue 80% de leur alimentation.
D'accord, mais pour les 20% qui restent, elles mangent quoi, les vaches ?
Eh bien, sachez que nos vaches sont nourries essentiellement avec des produits de la ferme.
Très bien. Et quels sont les autres atouts de ce type d'élevage aussi ?
C'est un modèle qui préserve nos paysages. Sans oublier que l'élevage bovin, ça permet de garder de nombreux emplois dans nos campagnes.
C'est important. Merci beaucoup, Olivier.
On en parle. Consultez nos sources d'informations sur interbef.fr, rubrique enjeux sociétaux. Étude IDEL 2020 et 2022.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Il était une fois, un prince et sa bien-aimée en quête d'une idée pour le dîner. Le nez dans le frigo, ils virent les endives Origine France à 1,95€ le sachet de 1 kg chez Aldi et purent ainsi se lancer dans la préparation de petites endives braisées. Eh, voilà, hein, ça fait le job comme on dit. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, offre valable jusqu'au samedi 27 avril. Info sur aldi.fr.
Il est 14.